Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 11h06, ravi de vous retrouver dans les grandes gueules du sport jusqu'à midi. Ils sont là, ils sont en pleine forme. Marc Madiot, Sarah Pitkowski, Denis Charvet et Simon Dutin. Si vous voyez seulement maintenant, ben vous avez de la chance déjà. Mais vous avez raté quand même 2 heures d'émission des GG. C'est à retrouver bien sûr dès maintenant en podcast. Il y avait notamment un excellent débat sur les Jeux Olympiques 2024 où Marc et Sarah se sont écharpés contre Denis et Simon. Et oui, on a réussi à réunir Denis et Simon sur une question. Dans 30 minutes, les GG qui partent sur le terrain avec Maria Azé qui est allée à l'INSEP, l'Institut National du Sport, pour rencontrer les futurs grands sportifs français qui sont sensibilisés au sujet du dopage. Et puis n'oubliez pas, les GG et vous, c'est votre rendez-vous, le 32-16, pour continuer le débat. Si vous voulez réagir à l'émission, si vous voulez vous écharper vous aussi avec une de nos GG, vous n'hésitez pas. 32-16, dès maintenant, c'est ouvert. Et puis, un autre rendez-vous sur RMC, c'est demain, Novak Djokovic, invité exceptionnel de Bartoli Time, 19h sur RMC, Novak Djokovic avec Marion Bartoli et avec Flora Moussi. C'est demain soir, donc en marge du tournoi de Paris-Bercy qui débute lundi. À ne pas rater, bien sûr, Djokovic sur RMC. Allez, tout de suite, dans les GG, les artistes entrent dans l'arène. Cette semaine, le Tour de France a dévoilé son parcours. Un parcours qui ne plaît pas à tout le monde. La Bretagne, le Nord et le Sud-Est sont totalement rayés de la carte 2023. À l'inverse, le parcours s'annonce très montagneux, spectaculaire, de quoi plaire aux cyclistes et aux fans. Mais le tracé du Tour de France doit-il plaire aux fans de vélo, plaire aux Français ? Dans le coin gauche, ils défendent l'idée que c'est le spectacle qui doit primer, la team spectacle représentée par Denis Charvet et Simon Dutin. Dans le coin droit, il pense que le Tour de France doit concerner tous les Français. La team Vieille France, représentée par Sarah Pitkowski. Marc Madiot n'a pas voulu choisir de camp. Il va nous expliquer pourquoi dans un instant.
À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant ?
RMC.
Les grandes gueules du sport.
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame ?
Mais j'ai fait appel à un arbitre dans ce combat de titans. Pierre-Yves Leroux, qui couvre le Tour de France pour RMC chaque saison, est avec nous. Salut Pierre-Yves.
Bonjour à tous.
Salut.
On va avoir besoin de toi, bien sûr, en tant qu'arbitre. Mais d'abord, rappelle-nous le parcours choisi pour l'année prochaine.
Alors, c'est une grande première, effectivement, avec une diagonale qui part donc du Pays Basque espagnol le samedi 1er juillet et un triptyque sur les bords de l'Atlantique. Il y a ensuite 2 étapes pyrénéennes avec des arrivées à la Reims et Cotteret. Puis, les coureurs entameront cette grande traversée plane via Dax, Mont-de-Marsan, Bordeaux et puis Limoges pour un hommage à Raymond Poulidor dans son village de Saint-Léonard-de-Noblat. Ensuite, place au deuxième massif central avec le Puy-de-Dôme avant la journée de repos à Clermont-Ferrand et puis se diriger vers les Alpes via les monts du Beaujolais. Le peloton restera quasiment une semaine dans ces Alpes avec au milieu une journée de repos au pied du Mont-Blanc et un chrono de 22 km et puis les rescapés pourront enfin remonter vers les Vosges pour une étape Belfort-Le Markstein à la veille des Champs-Élysées.
Alors, et donc, c'est ce que je disais, c'est un parcours qui pose problème, qui ne plaît pas à tout le monde.
Ah ben, je ne sais pas si ça pose problème, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une grande première, comme je le disais. J'ai consulté tous les tracés depuis 1903 et c'est unique. Certes, jusqu'en 1951, on a des tracés du Tour hexagonaux, mais ensuite, vous avez toujours un semblant de boucle. Les Tours 96 et 2015 ont des tracés transversaux qui ressemblent à celui de l'année prochaine, mais c'était pour les deuxième et troisième semaines, car en première semaine, vous partiez des Pays-Bas avec une partie dans le Nord en 96 et puis une semaine dans l'Ouest en 2015. Là, vous excluez effectivement toute la moitié nord de la France, la moitié des Pyrénées et tout le Grand Est. Et puis, je vais prêcher pour ma paroisse, tiens, celle de Marc Madiot aussi, et puis des plus grands amateurs de vélo en France, c'est-à-dire l'Ouest et les Bretons. Pas de Tour en 2022, ok, il y a eu le départ en 2021. Pas de Tour en 2023, ça commence à être long, mais avec un départ d'Italie et une arrivée à Nice en 2024, je crains que l'Ouest soit abandonné pendant 4 ans. Et 4 ans, bah, c'est plus le Tour, c'est les Jeux Olympiques.
Ah oui, merci beaucoup Pierre-Yves. Tu restes avec nous, bien sûr, hein, puisque tu vas arbitrer ce combat à venir. D'ailleurs, vous pouvez décider de qui remportera ce duel. Vous allez voter sur le compte Twitter des GG du Sport à cette question. Est-ce que le tracé du Tour de France doit plaire avant tout aux Français ou aux cyclistes ? 64% team français, 35% pour la team cycliste, la team spectacle, en quelque sorte, pour l'instant. Mais vous pouvez, bien sûr, faire évoluer tout ça. Alors, dans la team spectacle, Denis, tu as dit que toi, tu étais pour que le tracé plaise avant tout aux cyclistes, pour que ça soit spectaculaire, avant tout.
Oui, mais c'est d'abord le Tour de France, oui, il faut le partager. Tout le monde, on le partage avec tout le monde, ceux qui ne connaissent pas le Tour, s'y intéressent de loin ou de près, mais c'est vrai que c'est, le Tour de France est rassembleur, on le sait. Donc, même celui qui n'aime pas le Tour, il regarde le Tour. Donc, je le pense, même de loin. Mais donc, le problème, c'est, on regarde le Tour, pourquoi ? Parce que c'est spectaculaire. Pour moi, d'abord, la première raison, c'est parce que justement, c'est spectaculaire. Et spectaculaire, ça vient d'où ? Ça vient du sport. Ça passait de sport. D'abord, c'est pas un tracé. C'est, alors évidemment, Marc pourra me parler mieux que moi. Est-ce qu'un tracé a une silence déterminante pour faire du spectacle? Sûrement.
Oui.
Sûrement. Mais à partir du moment où tu fais deux étapes dans les Pyrénées, et on l'a vu, les étapes qu'elles vont être, les Alpes, le Puy de Dôme, donc, on peut pas dire que ce tracé de cette année soit pas spectaculaire.
Non, mais il est spectaculaire, mais c'est peut-être ça problème. C'est-à-dire que c'est un tracé qui se concentre dans certaines régions et qui oublie totalement ce que nous disait Pierre-Yves, des régions entières. Pourtant, oui, fan de vélo.
Tu vas pas dans le Puy-de-Dôme par hasard. Excuse-moi, c'est une région où ça fait un moment qu'on n'était pas allé dans le Puy-de-Dôme.
Ah non, c'est tout sauf un hasard. Hein.
Oui, non, bien sûr.
Puy-de-Dôme.
Oui, mais c'est bien qu'on y aille.
Mais bien sûr.
Donc, on n'a pas dit qu'on n'avait pas le droit d'aller dans le Puy-de-Dôme.
Non, mais c'est si on parle du eux. Tracé d'aujourd'hui, donc c'est pour
mais,
moi. C'est...
Mais le tracé, tu l'as vu. C'est concentré quand même dans certaines régions.
Mais il y a
des régions énormes qui sont abandonnées.
Si on lit l'article de Christian Prudhomme hier dans l'Équipe, il t'explique très bien justement le cheminement. C'est-à-dire que les tours se préparent 300 à l'avance. Donc c'est pas un hasard parfois que si pour qu'on délaisse une région par rapport à une autre.
Ah non, c'est tout sauf un hasard.
Oui, mais sûr, on peut s'y concentrer 3 ans ou 4 ans après.
Bien sûr.
Donc je veux dire, je trouve qu'on est très exigeant par rapport à ça et que Christian Prudhomme et ses équipes font le nécessaire pour pas privilégier une région plus qu'une autre.
Sarah défend le Tour de la France. Que ce n'est pas que le Tour de France.
Voilà,
c'est le Tour de la France.
Mais tu viens de dire, François. Voilà.
Non, le Tour des Français. Le Tour des Français. En tout cas, pour moi, le Tour de France, c'est autant le spectacle que l'évasion. C'est-à-dire que quand tu regardes le Tour de France, il y a des moments où, effectivement, sur des étapes où il ne se passe pas grand-chose, mais les images te font voyager. Donc, c'est un mixte entre les deux. Donc, le spectacle et le plaisir du public.
Tu sais que tu as des émissions comme ça, qui regardent, tu regardes la France.
Oui, bah, lesquelles?
Au fond des yeux.
Lesquelles? Le Tour de France, c'est ça?
Les émissions pour mettre en valeur la région, c'est ça que veut dire.
Oui, mais c'est.
T'as pas besoin de regarder le Tour de France.
L'ADN du Tour de France, c'est ça. C'est autant le spectacle sportif que ce fameux Tour de France qu'on devait faire. Et le Tour de France, aujourd'hui, fait 3500 km. Il ne peut pas faire plus de 3500 km. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la règle qui le dit. Mais avant, quand il faisait 4000 ou 5000 km, tu avais le temps de le faire, le Tour de la France.
Mais ce n'est pas une même époque, Sarah.
Mais oui, mais donc, si aujourd'hui, il fait 3500 km, je pense que...
Il y a des raisons.
Il y a forcément des arbitrages qui sont faits. Et d'aller cette année, de traverser les 5 massifs et d'aller dans d'autres régions, d'aller au contact d'autres publics qui n'ont peut-être pas vu le Tour de France depuis des lustres, moi je trouve que c'est bien. Et il ne me semble pas, mais ça c'est Marc qui nous dira, que ça soit au détriment du spectacle. Il ne me semble pas que l'organisateur choisisse d'abord ses régions et puis que finalement le spectacle soit en deuxième.
Ah bah, Marc, mais c'est un équilibre, Marc.
Marc va peut-être nous dire comment est construit le tracé du Tour de France.
Le premier point du Tour de France, pour qu'il y ait un parcours, il faut d'abord qu'il y ait des villes ou des départements ou des régions qui candidatent.
D'accord, ouais.
C'est-à-dire que si, par exemple, on dit pourquoi vous n'allez jamais en Bretagne? Prenons le cas de figure, on va plus en Bretagne.
C'est vrai que le Tour n'est pas candidat.
On a vécu un petit drame il y a de cela 2 ans quand ASO avait proposé et la région voulait faire un départ à Rennes. Et la maire de Rennes a répondu je ne veux pas du Tour de France.
Pour des raisons économiques, on est d'accord.
Non, pour des raisons écologiques.
Écologiques, oui, d'accord.
Donc vous voyez bien que la première chose, il faut déjà qu'il y ait des candidatures. Une fois que vous avez les candidatures, vous savez que sportivement, vous devez passer par les massifs montagneux pour garder la grandeur et le prestige du Tour de France. Aujourd'hui, on n'imaginerait pas un Tour de France sans les Alpes et sans les Pyrénées ou sans le Massif central.
C'est impossible.
Mais c'est inimaginable, impensable, et la valeur sportive serait totalement absente. Donc, vous avez d'abord les candidatures de départements, de régions et de villes. Ensuite, là-dessus, vous greffez l'aspect sportif. Et aujourd'hui, on est obligé de tenir compte d'un autre élément, c'est que pour l'organisateur, ou les organisateurs, quels qu'ils soient, il faut de l'audience. Donc, si vous avez trop de parties linéaires, si vous avez trop de journées de course qui se succèdent les unes aux autres, et qu'on commence à s'ennuyer parce qu'on a trois coureurs qui s'échappent au départ, voilà, qui font 150 km avec deux minutes d'avance et que ça finit au sprint et que ça, si ça dure huit jours, ce n'est plus possible. Donc l'organisateur, lui, il veut du rythme. Prud'homme est un homme issu des médias. Il est arrivé dans le cyclisme, mais il est issu des médias. Donc le but du jeu pour Prud'homme, c'est d'attirer l'attention, de stimuler et de motiver les gens pour regarder le Tour de France. Donc à partir de là, lui, il construit son scénario. Il a un scénario, après, c'est les coureurs qui en disposent, mais Prud'homme est là pour faire un scénario en tenant compte des aspects économiques, des aspects sportifs et du rythme qu'il va donner à sa course par rapport aux médias. C'est un peu tout ce mélange.
Oui, mais est-ce que le sportif prend toujours le deux,
c'est un équilibre.
Non, c'est un équilibre.
Ou est-ce qu'on pense au sportif avant le reste?
Bah là, c'est sur ça, cette carte, on a l'impression que l'équilibre, il balance d'un côté quand même.
Il y a quand même l'économie qui est toujours présent.
Le spectacle.
Dans les grands discours, dans les belles présentations, on va vous jouer du violon, on va vous mettre... Il y a quand même... Inéluctablement, il y a toujours un aspect économique qui détermine la suite. Mais le sportif...
Oui, mais c'est déterminant.
Il est déterminant également. Bah oui. Tout ça, c'est une question d'équilibre. C'est pour ça que je n'ai pas voulu prendre...
Parfois, c'est un petit peu déséquilibré, comme cette fois, tu vois. Non, voilà, non, il y a quand même des régions totalement... Sinon, on n'a qu'à faire le Tour de France sur le même col à chaque fois, et puis on reste au même endroit.
Soyez sûr d'une chose. Le Tour de France partira sans doute d'Italie l'année prochaine, mais dans deux ans, il partira sans doute de Bretagne ou du Nord. Mais tout simplement parce qu'il y a des équilibres, il y a des alternances, parce qu'il y a un coût financier. Mais avoir le grand départ du Tour, c'est pas gratuit.
Et il faut que la région, elle puisse l'absorber. Voilà. Elle met peut-être plusieurs années avant de l'absorber. Elle se dit, OK, je fais le grand départ, ça va me coûter tant. On sait que pendant deux années, je ne l'aurai pas et ça reviendra.
Et grande nouveauté, il y a quand même une volonté politique aussi derrière. C'est-à-dire que vous avez des départements, des maires qui sont... favorables à accueillir le Tour de France et d'autres qui ne le sont pas du tout ou qui ne le sont plus. Alors, vous voyez, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte.
Avant de donner la parole à Simon, c'est le bras de fer des GG. Je vous le rappelle. La question sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport. Le plus important pour le Tour de France, c'est plaire aux cyclistes ou plaire aux Français? 65% plaire aux Français. 35%
on a déjà gagné.
Plaire aux cyclistes. 35% pour la team spectacle qui pour l'instant est dominée. Simon Dutin, toi qui fais partie de la team spectacle, essaye de convaincre les gens qui nous écoutent.
Chaque année après la présentation qui allait au Palais des Congrès, il y a le même débat. Ils disent ah ben il passe pas par là, ben dis donc, et là la ville la plus visitée de l'histoire du Tour ne recevra pas le Tour. On crée un petit événement parce qu'effectivement c'est le Tour de France, c'est un monument du patrimoine national. Tu le disais tout à l'heure dans ta question, c'est pas le Tour de la France, c'est le Tour de France. Paradoxalement, si tu réfléchis bien, si on passait par tous les endroits de la France, ben finalement on aurait la même course tous les ans. Et Marc le disait tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on qu'on rate aucun endroit de France et qu'on se tape 10 étapes au sprint avec cinq fois le même mec d'affilée qui remporte l'étape, avec effectivement la salle vidée en termes d'audience pour la télé et tout. Il faut effectivement c'est une économie qu'il faut faire subsister. Et Prud'homme, je crois savoir que tu l'apprécies, Christian. Prud'homme, moi je trouve que depuis qu'il a remplacé Jean-Marie Leblanc à tête du Tour, je trouve qu'il a fait des choses extraordinaires en termes effectivement de spectacle, en termes de changement de topographie. On est allé dans des coins où le Tour n'avait pas l'habitude d'aller. Alors ça reste une course, certes, mais c'est pas... Si tu veux voir la France, tu lis le Tour de la France par deux enfants, ou tu regardes du documentaire, ou des émissions qui sont consacrées à ça.
Je pense à des gens qui sont fans de vélo en Bretagne, comme le disait Pierre-Yves, et qui ne voient pas passer les coureurs
N'en déplaise à Pierre-Yves, là, le Grand Ouest a eu, c'est bien un goinfré de passage du Tour de France, non?
Pierre-Yves, ça lui suffit pas.
Quatre ans sans Tour, alors que c'est le public le plus fervent, c'est long, hein.
Ils sont prêts, les maires.
Jusqu'en 2013, le Tour avait jamais posé une roue en Corse. Oui. On n'est jamais allé en Outre-mer. Donc à ce moment-là, si on va par là, on arrête les départs au Danemark l'an dernier. Que n'a-t-on pas entendu? Formidable Danemark, l'engouement, trois jours de course formidable. À ce moment-là, on part pas de Bilbao, on parle pas d'Italie, on part pas du Danemark.
Non mais c'est le deuxième départ d'affilée à l'étranger.
Mais ça va faire trois.
3. Voilà, ça fera 3. Ouais.
Ça fait 3. Un contre-la-montre de 22 km. 22 km.
Il y a beaucoup de contre-la-montre pour des raisons économiques.
C'est économique. Vous prenez, quand vous êtes organisateur du tour, vous prenez plus d'argent quand vous allez au Danemark que quand vous allez en Bretagne.
Ben oui.
C'est très simple.
Donc, c'est comme ça. On va pas faire les innocents non plus. Dans les années.
Non, mais attends, excusez-moi, les valeurs du Tour de France, c'est quoi? C'est l'économie? C'est l'argent?
Dans les années 20 ou 30, il y avait une étape, c'était les Sables d'Olonne, Bayonne. Bon, bah, tous les maires des communes qui étaient.
On rappelle que c'est le seul.
Ils disaient, bah, il passe pas par chez nous, et pourtant c'est
totalement gratuit pour les spectateurs.
Oui, ah oui, mais pour les spectateurs, mais y compris pour les participants ou presque.
Mais du coup, est-ce que vous pensez que ça va réduire l'engouement populaire, le Tour de France? Non, c'est plus qu'une course, c'est une idée de la France en été, des Français sur la route, c'est notre patrimoine, il y a de l'esprit autour de juste de la.
Ça reste ça existe.
Bah oui, je suis d'accord avec toi. Et c'est pas parce qu'il y a des endroits où on va pas
sur chaque département ou sur chaque région suscite le désir et l'envie. Donc se priver de quelque chose, c'est s'en donner envie.
Disons que là, quand on voit la carte, et Pierre-Yves, tu vas pouvoir développer, quand on voit la carte, c'est une diagonale. Hein.
Oui, pour vous dites les spectateurs au bord des routes, on va voir, ça va être c'est quand même la diagonale du vide, là, hein. C'est au milieu de...
Pierre-Yves, je te répondrais que ça, parfois, ça arrange les préfets. Il suffit de regarder certaines étapes de montagne des derniers Tours de France pour s'apercevoir qu'en montagne, et notamment l'Alpe d'Huez, il y avait moitié moins de monde que d'habitude. Pourquoi il y a moitié moins de monde que d'habitude sur l'Alpe d'Huez? Tout simplement parce que les préfets ferment les routes. Ils veulent pas qu'il y ait trop de monde pour les problèmes de sécurité, risque d'attentat,
c'est pour,
etc.
C'est donc pour avoir des jours de congé pour nos fameux policiers et gendarmes qui vont sur les jeux l'année d'après.
Et les spectateurs qui ne seront pas au bord de la route parce que c'est trop loin de chez eux ou quoi, ils se régaleront dans leur canapé ou leur
Ça y est, j'ai compris. Le Tour de France, c'est à la télé maintenant.
Mais bien sûr.
Maintenant, c'est que la télé qui est prioritaire.
C'est pas à la télé, c'est à la radio.
Sur le bord de la route pour qu'il y ait quand même de belles images.
Bien sûr.
Non, mais il y a autant de monde.
Non, mais Marc, c'est terrible ce que tu dis.
Il n'y a pas forcément l'Alpe d'Huez, c'est significatif. Il y avait moins de monde sur l'Alpe d'Huez qu'il n'y en a eu à certaines époques. Tout simplement parce que c'est pas que les spectateurs ne veulent pas y aller. C'est qu'on empêche les spectateurs d'y aller.
Mais pas partout.
C'est pas la même chose.
Faut y aller.
Mais si, dans beaucoup de sites, en montagne, aujourd'hui, les préfets ferment les routes de manière à ce que les gens soient découragés pour venir sur
le bazar. Parce que ça crée aussi le bazar jusqu'au lendemain ou au surlendemain. Parce quand tu montes à l'Alpe d'Huez, après, il faut attendre qu'on redébloque la route pour redescendre dans le goulet
étranglement. Mais il y a des dérapages. Dans l'Alpe d'Huez, ils deviennent complètement fous, les gens.
Oui, mais c'est justement. Donc on ne veut plus de ça.
Oui, mais voilà. On n'a qu'à faire qu'un Tour de France à la télé et tout le monde sera content.
Mais ça, mais tout de suite, les grands mots.
C'est pas tout à fait ça. Mais on essaie. Enfin, en fait, on est en perpétuelle recherche d'équilibre. Voilà. Et aujourd'hui, le fait d'avoir de trop grandes masses de public non maîtrisées fait peur au pouvoir politique.
J'ai une proposition. On fait tout sur Zwift maintenant, les vélos d'appartement là.
Bah on va changer de métier.
Non, mais on peut faire ça. Du coup. Tout virtuel.
Non, mais par rapport au débat, tu parles d'équilibre, Marc, mais en fait, le sportif prend toujours le pas sur le reste.
In fine, oui, parce que ce qui est déterminant, c'est quand même l'intérêt sportif. S'il n'y a plus d'intérêt sportif, il n'y a plus d'auditeurs,
les spectateurs. Dans les années 90, on disait, c'est chiant, si t'es bon en contre-la-montre et que tu tiens en montagne, tu gagnes. Indurain, il fait rêver personne. On s'emmerde. Et là, t'as des coureurs.
Si tu fais un Tour de France aseptisé, tu
auras. Et vous savez pourquoi il y a moins de chronos?
Ah, bah ça, c'est une question.
Oui, c'est pour que les Français gagnent le tour, Marc.
Non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'une étape chrono à la télé.
Ah, ça n'intéresse
pas. Des grosses audiences, tout simplement.
Ouais.
Ça fait pas des bonnes audiences.
Parce que c'est pas une course.
C'est individuel, voilà.
C'est une course, mais ça va polariser l'attention du téléspectateur seulement sur les derniers participants.
Mais il y a une idée pour avoir un chrono. Marc, un chrono qui fait une audience, c'était sur les champs.
Marc, moi je suis content parce que.
Oui, mais c'est très risqué un chrono sur les champs. Très, très risqué. Parce que si le
tour. Tout le monde s'en souvient.
Oui. Parce que ça s'est bien, ça s'est pas bien terminé pour Fillon, mais parce que ça s'est terminé par un duel. Mais s'il n'y a pas de duel, et qu'il y a un des protagonistes, que le maillot jaune a 3 minutes d'avance, ça fait audience zéro.
Mais pour les Français, sur le bord des routes, c'est le meilleur spectacle. C'est le chrono. On voit tous les coureurs un par un.
Oui, mais le spectateur sur le bord de la route est moins nombreux que le téléspectateur devant la télévision.
C'est terrible ce que tu dis, Marc.
C'est la réalité.
Oui, mais c'est terrible. Toi, tu es d'accord avec tout ça.
Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ça. Je dis qu'il faut trouver des équilibres.
Ouais.
Et quand on n'est pas en équilibre, on
attention
est en danger.
Attention au déséquilibre. Voilà, c'est ce qu'on voulait dire. Pierre-Yves, pour finir, puisque tu vas arbitrer ce duel, je t'avais convié aussi en tant qu'arbitre. Ils t'ont pas convaincu, là, ceux qui sont pour la team spectacle, les Denis, les Simon, là, qui veulent voir uniquement des étapes de montagne.
Je sais pas si j'étais un arbitre tout à fait impartial avec les éléments que j'avais donnés, mais c'est vrai que c'est un équilibre, bien sûr, à trouver. Ce qui est certain, parce que je l'ai fait, j'ai regardé tous les tracés, ce tracé, il est inédit, c'est vraiment une diagonale, donc c'est un peu vraiment excluant quand même. Donc je trouve qu'il faudrait pas oublier que sur le bord des routes aussi, c'est le grand-père avec ses petits-enfants et c'est la tradition qui se perpétue. Donc il faut que ça se maintienne, ça, et il faut penser à tous les Français.
On a les résultats du sondage sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport. Victoire écrasante de Sarah Mikowski.
Non, mais on a parlé avec JC. La victoire, c'est
victoire
pas le score qui est
haut.
Est-ce que l'écart a diminué ou pas entre les deux positions?
Alors, c'est 64%.
Bon, on a gagné.
36%.
Voilà.
C'était combien 35?
C'était
65-35,
c'est
65-36. On a gagné. Voilà. C'est ce que dit JC chaque fois. Ça dépend le pourcentage.
Et ouais, c'est le changement entre. Tu commences le débat, il y a un écart.
Non,
les gars, attendez, là, vous pourriez faire une carrière politique, les deux, là.
Bravo, Simon.
J'ai l'impression d'être un soir d'élection.
35%, t'as gagné. Bon, bah, oui. Ok, j'ai compris.
On est un soir d'élection, là.
35%, c'est du coup écrasant.
On a réduit les écarts entre les deux positions, on a gagné.
Bon, merci beaucoup, Pierre-Yves, en tout cas. Et on t'écoutera avec plaisir pour ce Tour de France 2023, bien sûr.
Bien sûr.
Même s'il ne sera pas en Bretagne, tu seras là quand même.
Évidemment.
Merci beaucoup. Allez, les GG qui continuent jusqu'à midi, bien sûr, avec dans un instant les GG qui partent sur le terrain. On est allé à l'INSEP pour voir comment on sensibilisait les futurs athlètes au dopage. Ça promet un bon débat également. À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h30, les Grandes Gueules du Sport.
Et tout de suite à 11h27 sur RMC, on va faire le point sur vos conditions de circulation avec Valentin Lorca. Bonjour Valentin.
Bonjour François, bonjour à tous. Début du deuxième week-end des vacances de la Toussaint ce samedi. Les routes devraient être chargées dans le quart nord-ouest du pays, classées orange par Bison Futé dans le sens des départs. En Ile-de-France, le contournement de Paris est un peu difficile, surtout à l'est, avec le secteur Aulnay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne, qui pose problème sur la 86 et sur la 3. Comptez une quinzaine de minutes en plus pour rejoindre votre destination. Plus au sud, ça roule au pas sur la 10 entre Fresnes et Massy, ainsi que sur la N118 entre Bièvre et Saclay, où c'est difficile de rejoindre la 10 en direction du Mans ou de Bordeaux. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce n'est pas évident de quitter Lyon sur via la 7 pour se rendre à Montélimar, ou bien pour descendre encore plus bas vers Salon de Provence, où vous serez certainement gêné par des ralentissements dans cette zone. À Marseille, sortir de la ville depuis la 50 en direction d'Aubagne n'est pas une partie de plaisir. Le secteur est bouché sur une dizaine de kilomètres jusqu'aux environs de la Penne-sur-Uvonne. Et puis du côté de Toulon, vous éprouvez des difficultés à circuler dans les deux sens sur la 57 entre l'Acro et la vallée du Var. Ce ne sont pas des gros ralentissements, mais il empêche le trafic d'être fluide. Très belle journée à l'écoute d'RMC.
RMC, 9h midi, les Grandes Gueules du Sport.
François Pinet.
Il est 11h32, encore une demi-heure à passer ensemble dans les GG du sport. Dans un instant d'ailleurs, les GG seront avec vous. Les GG, vous prenez votre téléphone, vous faites le 32-16 pour bousculer une de nos GG sur un de ses avis. N'hésitez pas, venez rejoindre Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Marc Madiot ou Simon Dutin au choix. Mais d'abord, les GG qui sont allés sur le terrain.
RMC, les GG sont sur le terrain.
Avec Maria Azé de la rédaction RMC Sport qui est partie à la rencontre des futurs athlètes français, ceux qui ont intégré l'INSEP, l'Institut National du Sport, et qui participeront peut-être aux Jeux Olympiques 2028. Ils sont un peu jeunes pour 2024, donc ça sera plutôt 2028 à Los Angeles pour certains d'entre eux. Des athlètes qui sont sensibilisés très rapidement au danger du dopage.
Ils sont 44 jeunes sportifs, ont entre 13 et 17 ans et viennent de faire leur entrée à l'INSEP. Et dès le premier jour de cours, pas de maths ou de français au programme, mais de la sensibilisation au dopage enseignée par Anne Templet.
En fait, il y en avait que 5 qui avaient déjà vécu un contrôle. Donc on s'est dit, ça, c'est quand même la base. Nos sportifs, même s'ils sont jeunes, participent à des compétitions internationales. Donc potentiellement, ils vont vivre un contrôle anti-dopage assez rapidement dans l'année.
Parmi les élèves de la promotion 2022, Ambre Chevreau est championne d'Europe cadette de l'UT, fait partie de ceux qui ont déjà vécu un test.
Je ne savais pas comment devait se dérouler un contrôle antidopage et c'est ici que j'ai vraiment su et je me suis rendu compte que l'expérience que j'avais eue c'était faite dans les règles.
Alors à l'INSEP, Anne Templet et les deux autres référentes formées par l'Agence française de lutte antidopage ont pour rôle de lever toutes les interrogations.
Comment se déroule un contrôle antidopage? Comment je peux me soigner sans me mettre en difficulté. Quels sont les droits et les responsabilités des sportifs? Comment réaliser ma localisation lorsque je suis dans le groupe cible? Vers qui me tourner si j'ai des questions?
Avec un mot d'ordre, attention à l'automédicamentation.
Tout sportif qui ingurgite une substance doit être vraiment conscient de ce qu'il ingurgite.
Car oui, on peut trouver des produits dopants dans sa trousse à pharmacie, Ambre Chevreau.
Il y a un truc que j'ai appris cette année, j'étais très étonnée, c'était le pchit-pchit dans le nez. Je savais pas du tout, du coup, on évite d'en prendre.
Gélules, brûle-graisse, d'afalgan, codéiné, dolirum, des médicaments en apparence. Inoffensifs, mais qui peuvent rendre un contrôle positif.
Maintenant, et dans les carrières de haut niveau, on doit faire attention à ce qu'on prend, toujours consulter notre médecin. C'est pas possible que ça arrive par malheur. En tant que sportif, c'est notre responsabilité de faire attention à ça.
D'autant plus que des contrôles ont lieu régulièrement à l'INSEP.
Au pôle lutte, c'est une à deux fois par mois. Souvent, ils viennent un matin et soit il y a directement les noms listés des personnes qui prennent, soit ils disent il nous faut telle personne. Après, je sais que certaines fois, ils peuvent venir toquer dès le matin à notre porte. C'est vraiment quelque chose d'aléatoire. Donc, si jamais quelqu'un prend quelque chose, il se met mal.
D'où l'importance d'en faire un axe majeur, explique le directeur de l'INSEP, Fabien Canu.
On se rappelle les affaires du passé, Festina et compagnie, qui ont vraiment été des moments dramatiques, mais importants de côté français. Donc oui, notre modèle français, c'est dire qu'on veut des médailles, mais pas à n'importe quel prix.
En France, la FLD accélère le rythme en matière de lutte antidopage. Près de 10 000 tests ont été réalisés l'année dernière. C'est 3 000 de plus qu'en 2020.
Le reportage de Maria Azé pour les grandes gueules du sport. Ces athlètes ont donc, vous l'avez compris, pendant toute leur scolarité, des cours autour du dopage. Et alors qu'on entend de nombreux athlètes pris par la patrouille dire qu'ils ne savaient pas, est-ce que cette justification est encore audible? C'est la question que je vous pose ce matin, les GG. Oui ou non, Sarah Fitkowski?
Oui, je crois que j'avais répondu non, mais après le reportage, oui, c'est audible. Ça peut être audible, oui.
Denis Charvet.
Oui, mais je suis comme Sarah, j'avais dit non, je crois non, mais c'est vrai que le reportage change un petit peu la donne.
Ah, Marc Madiot.
Non.
Vous l'avez pas bien entendu, mais c'est un
pas non. Ouais.
Simon.
Non.
Non plus. Très bien. Pourquoi non, Marc?
Tout simplement parce que le monde change, le monde est surinformatisé aujourd'hui. Quand on est sportif et qu'on arrive à un certain niveau de compétitivité, on ne peut plus aujourd'hui utiliser l'excuse « je ne savais pas ». Ouais. Pour moi, c'est très simple. Quand on est licencié dans une activité sportive, normalement, si le travail est bien fait dans cette fédération, on doit avoir les éléments d'information.
Mais si le travail est bien fait.
Oui, c'est ça.
Si le travail problème, est bien fait, mais c'est quand même le rôle des fédérations de bien faire leur travail.
Oui.
Oui, normalement.
À la base.
Normalement.
Et on a quand même un ministère des Sports qui est là pour valider le travail plus ou moins bien fait dans les fédérations. En théorie. Donc pour moi, aujourd'hui, il n'y a plus de.
Les fédérations sont souvent indépendantes, hein.
Non mais
désolé, quand tu veux dire le ministère des Sports, je suis pas d'accord avec toi. Hein.
Quand t'es dans un sport co où tout est encadré, c'est-à-dire un staff pour.
Et même individuel.
Mais non, justement, dans un sport individuel, et là je parle du tennis en l'occurrence, finalement ta fédération, t'es pas en contact avec eux tout le temps, tu as ton propre staff. Et c'est là où c'est pour ça que je dis, j'étais sur non au départ, mais il y a un moment, les listes. Des produits peuvent tellement changer, varier, ça va tellement vite, que le petit accident ou le petit incident peut arriver. Alors, je ne savais pas, évidemment, tu peux le balancer à tout moment, mais c'est dans des sports où tu es livré à toi-même, c'est-à-dire que ton staff, ta structure d'entraînement, c'est toi qui l'as choisi,
oui, mais
et donc tu es responsable. Non, pas tous les sports. T'as les sports co, excuse-moi, quand t'es dans ton club, t'as ton maillot qui t'attend dans ton vestiaire, t'as tes pompes qui sont là, t'as ton kiné qui est prévu, tu sais à quelle heure tu prends le bus pour arriver à l'entraînement, tu sais à quelle heure tu prends le bus pour
là,
partir.
Là, tu veux dire, Sarah, que toi, t'es seule face à la pharmacie.
Je pense qu'il y a certains profils de sportifs qui, à un moment ou un autre, si tu veux, la petite erreur peut exister. Tu peux aussi oublier.
De moins en moins, Sarah.
Mais pour
le joueur de foot de Sunday League qui joue dans la bouillasse le dimanche. Ouais. Mais quand tu te prépares à une carrière vers le. Enfin, que tu rêves
de
carrière
au haut niveau, tu es forcément au contact.
Tu as regardé du sport, tu connais les histoires de dopage. Moi, j'aimerais savoir, demander à mon excellent confrère, présentateur, jusqu'à quand ça a été audible, en fait. Pourquoi ce ne serait plus audible? Jusqu'à quand ça a été audible? Que n'a-t-on pas entendu sur sûr, on a les sportifs dopés, on les a comparés à des criminels, hein, tu vois, pénalement condamnés. Vraiment, on est allé très loin dans les superlatifs. Moi, ce que je trouve très intéressant dans le reportage de Mara, c'est qu'effectivement, on n'apprend pas aux gamins le dopage, c'est mal. Fais attention, hein, tu n'as pas le droit de booster tes performances. Ce qu'on leur apprend, c'est tout le côté procédural,
exactement,
qui est complexe. La localisation, et effectivement, le seul truc qui peut être audible, c'est effectivement des questions de délai. Tu t'as pris un traitement pour une maladie ou quelque chose comme ça.
Quand t'es livré à toi-même, tu fais comment?
Moi, j'ai tendance à croire que lorsque tu te diriges destiné au haut niveau, t'es plus tout à fait livré à toi-même. Et à l'INSEP, la preuve,
mais ça, tu es encadré à
l'INSEP. Quand tu arrives à un niveau de compétition, tu sais qu'il va y avoir des contrôles antidopage. T'as quand même un minimum d'informations et si tu n'as pas l'information, tu dois aller la chercher.
Tu dois aller la chercher, mais attendez, c'est inexcusable, Sarah, tu peux pas raisonner comme ça.
Là, je suis désolé, maintenant, c'est pas pas être dans la NASA pour aller faire un contrôle
de dopage. Alors, je vais prendre un cas concret qui est celui de mon fils qui est un golfeur. Il est parti aux États-Unis. Il n'y a jamais eu une liste qui a été fournie par la Fédé de golf, sur les produits interdits. Il a jamais subi, et c'est normal parce qu'il est trop jeune. Il a pas subi du tout de contrôle antidopage. Il se retrouve dans les facs américaines où là, je peux te dire que ça tourne les protéines. Et nous, parents, parce qu'on vient du monde du sport, on lui dit de faire attention. Mais il ne peut pas faire la démarche de demander à la fédération.
C'est quand même meilleur que.
Il est dans son équipe. Il y a les mecs qui arrivent avec des. Mais des 10 kilos, c'est à l'américaine, mais comment, puisqu'il n'a pas eu cette pédagogie qu'il a pu avoir à l'INSEP. L'erreur, elle peut arriver très vite.
Mais c'est un peu facile aussi de se retrancher derrière l'erreur. Chacun est responsable de
ses actes. D'accord, à condition que l'information, tu saches où aller la chercher. Tu as raison.
Dans le cas de ton fils, je suis désolé, l'information, tu as une fédération, toi-même tu le dis, donc tu vas demander à la fédération si tu es. Bon, ça me paraît pas compliqué.
La liste avec les produits.
Là où c'est plus audible, pour moi, c'est qu'aujourd'hui, le monde a tellement changé, évolué, qu'aujourd'hui, on n'est plus il y a 20 ans en arrière où c'était encore.
Parle pas de ça.
Mais si, c'est ça, justement, le sport du haut niveau aujourd'hui, c'est plus la même chose. On est dans un monde qui est contrôlé.
Pas droit à l'erreur, quoi, pour vous.
Mais l'info, tu l'as où tu veux, l'info aujourd'hui.
Je suis désolé. Il y a 20 ou 30 ans, l'info, tu vas chercher où?
Tu sais que ton phytomère, tu peux pas te le mettre dans le nez avant de prendre l'avion ou parce que tu vas avoir un contrôle de seconde. Et vous savez que la codéine, vous prenez. Tu sais que la codéine, c'est un produit dopant, toi?
Oui, ça m'étonne pas.
Mais vous savez que.
Ça m'étonne pas.
Non, mais je veux pas te dire que ça dope pas. Mais non, mais je veux dire par là.
C'est tellement complexe que ce que je veux dire, c'est.
Il y a quand même un moment où si tu veux l'information, tu peux aller la chercher.
C'est ça. Si tu veux l'information aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, tu peux l'avoir.
Oui.
C'est là où c'est pas audible, le reste n'est pas audible. C'est plus facile
que d'autres. Il y en a qui, c'est plus facile. Et le reportage de l'INSEP le montre, c'est qu'au-delà de ça, on fait de la pédagogie. C'est ça qui est bien, c'est qu'on fait de la pédagogie et on accompagne.
Quand tu débutes dans un sport, quand tu es à la base de ce sport, dans les écoles.
Quand tu arrives à l'INSEP, c'est pas.
Mais quand tu arrives à l'INSEP, quand même, quand même à un certain niveau. Pour moi, il n'y a pas d'excuse.
Je suis d'accord avec vous. À l'INSEP, il n'y aura pas d'excuse parce qu'il y a un accompagnement et une pédagogie qui est faite. Mais tous les sports ne se font pas à l'INSEP ou au sein d'une fédération ou d'un club.
Ça peut être dans. À un certain niveau de compétitivité, tu dois être informé. Ça fait partie de ton évolution. Que d'être informé.
Donc pas d'excuse pour Simone puisque c'est la dernière grande sportive prise par la patrouille.
Et ce qui est étonnant, c'est que ses coachs s'engagent en disant que c'est.
Il la soutient, j'ai l'impression.
En fait, je ne sais pas.
C'est pas son cas, elle. C'est fou quand même.
Elle est inexcusable.
Elle est ancienne numéro 1 mondiale, elle est contrôlée positive, et on va lui trouver des circonstances atténuantes.
Oui, mais elle a dit qu'elle.
Aucune
elle...
circonstance bah, atténuante, oui, mais elle désolée.
Explique, non, mais. Qu'elle a jamais
aucune. Non, mais elle a quand même expliqué triche, qu'elle a jamais, elle a jamais rien pris, quand même.
Non, mais.
Non, mais on est où? On est où? Non, mais c'est ça qui est fou.
Et il faut savoir que Marc Madiot, il veut des Mavericks qui viennent défoncer les portes d'hôtels et tout. Il trouve que. Sur la lutte antidopage.
Soyons objectifs. Elle est au top de son sport. Elle a été numéro 1 mondiale et on vient nous dire « Oh ben, elle savait pas
la peau. » C'est elle qui nous dit ça. Hein.
Oui, c'est elle, mais c'est elle. Moi, je ne crois pas une demi-seconde.
À chacun de la croire ou non. Hein.
Bon, je ne la crois pas, moi.
Très bien. Merci, Marc. Dans un instant, il est 11h44 dans les GG. Vous voyez, ils sont en pleine forme jusqu'à midi. On est avec vous, bien sûr.
Et
dans
ils sont du mais zéro indulgence.
Ah non,
mais
ils sont
pas intransigeants.
Non, mais il y a certaines choses qui ne sont pas audibles.
Sarah, demain, ils sont pires. Ils sont pires, tu verras. Toi, t'es avec nous demain. Heureusement que tu es là, Sarah.
Tu avais de la chance aujourd'hui d'être avec nous.
Dans ces GG. Et je suis avec toi.
D'humanité,
hein,
n'ayons pas peur des mots.
De l'humanité. Oh, oui, de l'humanité.
D'humanité.
Vous n'êtes plus des humains, les amis.
Non, on est déshumanisés.
Les grandes gueules qui reviennent dans un instant et on vous offre justement la possibilité de venir dire en face à une GG ce que vous pensez, de ce que vous ruminez depuis ce matin. Alors vous foncez, vous faites le 32-16 et on vous retrouve tout de suite sur RMC. À tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 11h48, vous êtes dans les GG du sport, des GG en pleine forme, Sarah Pitkowski, Marc Madiot, Denis Charvet, Simon Dutin. Un rendez-vous à vous donner, Marion Bartoli, Bartoli Time, c'est tous les dimanches de 19h à 20h sur RMC désormais, avec un invité exceptionnel cette semaine. Demain, Novak Djokovic sera l'invité de Marion Bartoli dans Bartoli Time à partir de 19h. Et puis, si vous voulez rejoindre la course virtuelle de la Route du Rhum sur Virtual Regatta, je sais que tu fais ça toi Simon de temps en temps.
Je fais ça, mais je termine régulièrement dans les rochers, pas loin de chez nous.
Vous pouvez être avec le bateau RMC qui est très très beau, noir et rouge. Pour participer avec nous, vous allez sur le site Virtual Regatta ou sur l'appli même Virtual Regatta Offshore. Vous entrez le code RMC et ça vous permettra d'accéder à la course privée de RMC, départ de la Route du Rhum le 6 novembre prochain. Allez, avant de retrouver les paris également dans la Dream Team des paris à partir de midi, c'est d'abord le moment, les GG et vous, c'est votre moment ce matin.
RMC. Les grandes gueules du sport et vous.
Et on accueille Philippe à 11h49 sur RMC. Bonjour Philippe.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. À qui tu veux t'adresser?
Bon, en particulier à Denis.
Allez, écoute.
À Denis, par rapport au. En rapport à la discussion et au débat que vous aviez autour de la sécurisation des JO.
Ouais.
Et donc, le choix qui devait être fait entre les JO et des festivals. J'aurais bien voulu quand même écouter Denis nous parler sur le côté, en prenant le prisme financier. Moi, je veux bien 15 jours de cette grande compétition mondiale et reconnue mondialement, ça j'ai aucun souci avec ça. Mais l'accès à ces activités sportives financièrement pour la personne lambda.
Aux épreuves, tu veux dire.
Pour 100 euros, vous passez par exemple 3 jours au festival Les Vieilles Charrues et en ayant accès au camping. D'accord. Si je veux assister à des finales au Stade de France ou de judo ou ce genre de choses, ça va me coûter x7, x8 le prix. Et ça, on n'en parle jamais. Donc, Denis, j'aimerais bien quand même qu'on prenne ça en compte et qu'on dise...
Sur les prix, il y aura tous les prix, hein, d'ailleurs. Hein, on précise quand même.
Non, mais les jeux,
énormément. Il y aura des prix pas trop chers.
Oui, mais en plus, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un calcul aussi par rapport aux incidences. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça rapporte les jeux? Je crois que les jeux, c'est 150 000 emplois créés. Est-ce que c'est neutre? Est-ce que... Voilà, donc il y a... C'est aussi... je comprends sa problématique, mais quand il y a eu le Covid, on a été obligé de. Il y a des festivals qui ont été arrêtés, il me semble. Donc,
ce que veut dire, c'est quand tu dis les jeux, c'est pour tout le monde, c'est vrai que peut-être.
Non, c'est une nécessité, Philippe, de le mettre en avant.
Il y a certains qui n'assisteront pas aux épreuves parce qu'ils n'auront pas les moyens de le faire, par exemple, tout simplement.
Oui, mais ça, on le sait.
Ah oui,
mais comment on fait?
Je ne sais pas.
C'est compliqué aussi parce que c'est un coût effectivement d'aller voir des épreuves, c'est pas donné. Alors tu peux aller voir un festival comme il le dit, mais
bon, sinon la solution c'est d'écouter RMC, c'est gratuit, hein, les Jeux Olympiques sur RMC.
Il
faut
télé,
quand même avoir un poste de radio.
C'est la télé.
Oui, mais bon, on est sur RMC, donc on valorise.
C'est mieux. Oui,
c'est mieux. Aldric est avec nous. Remercie Philippe d'être passé. Aldric est avec nous dans les GG. Salut Aldric.
Bonjour.
Alors toi, tu voulais revenir sur notre débat sur le ski. Tu voulais t'adresser à quelqu'un en particulier ?
Pas particulièrement à
d'accord.
quelqu'un
à toute l'assemblée, alors.
Mais c'était surtout pour voir avec vous ce débat parce que j'y suis confronté. Je suis moniteur de ski à Champs-Rousses, donc une petite station autour de Grenoble. Et quand j'entends ce que j'entends, que comme quoi les compétiteurs, notamment, j'ai entendu qu'ils aient des voyages en avion, en hélicoptère, tout ça, c'est peut-être vrai en partie. Mais en tout cas, les hélicoptères en France, le transport de personnes en privé n'est pas autorisé. Donc sur le domaine de Champs-Rousses, vous ne verrez jamais personne oui. se faire déposer en hélicoptère.
Pierre Amiche parlait des compétitions professionnelles.
Oui, tout à fait.
Ouais,
tout à
enfin,
fait.
On a le droit de décoller en France et de se faire déposer en Suisse ou en Italie quand même. Hein. Bon, il y a des petites techniques voilà, quand
après,
même pour.
Faut
un copain pour venir te chercher en bas, mais bon.
C'est des petits jeux d'Illois, bon bref. Mais après, c'était surtout par rapport au canon à neige retenu. À la station de Champs-Rousses, on a eu le cas qu'on a construit une retenue. Ça a fait beaucoup débat. Et même si ça fait débat environnementalement parlant, pour nous, ça va être un petit plus. Ça va être notre petite bouteille d'oxygène qui va nous faire quelques années de plus. Parce qu'en étant saisonnier, moi, ça fait depuis mes 16 ans que je suis saisonnier. Et ben, je peux vous dire que la canon à neige, on les fait pas cracher tant que ça, déjà d'une. Et surtout, ça peut nous permettre de tenir quelques semaines de plus, et c'est pas négligeable. Et même pour, je parle en tant que moniteur de ski, mais en tant que saisonnier en général sur une station,
ouais.
L'ouverture de la station, c'est voilà, ultra important, ça fait vivre des milliers de personnes, le bassin grenoblois, le nombre de saisonniers qu'il y a, c'est important.
Non mais ça, on l'a dit, Aldric, tu as raison.
Justement, je l'ai souligné, mais c'est la difficulté de pouvoir continuer à pouvoir installer ces bassins de rétention pour pouvoir avoir cette, comme tu appelles ça, cette bouteille d'oxygène qui peut permettre d'avoir de la neige. Mais peut-être que toutes les stations ne vont pas pouvoir développer ce genre de choses et qu'on ne va pas pouvoir les agrandir si on a besoin encore plus de neige artificielle. C'est là où le danger est quand même présent.
En tout cas, Aldric, on te remercie d'avoir précisé les choses et tu reviens quand tu veux.
Et bien bonne sûr, saison, on espère.
Et bonne saison de ski. Tu oui. croiseras peut-être Simon Dutin qui a envie absolument que tu l'invites.
En tout cas, tu ne croiseras pas François, semble-t-il.
Non, mais peut-être que c'est pour toi qu'il faudrait qu'il fasse une petite place dans son groupe, Aldric.
Oui, de moniteur. Ah oui, ça c'est sûr. Et au niveau zéro. Allez, on remercie Aldric. Denis, toi, tu restes avec moi pour les paris dans un instant. Les paris, bien sûr. Merci beaucoup, Marc.
Merci.
C'était parfait. À très bientôt dans les GG.